des communes de gérer le service public au nom du principe de laïcité. Mais lorsque la commune prévoit de tels repas, il y a plusieurs questions qui se posent. La première qui se pose, c'est celle du respect du principe d'égalité des religions. Si une commune prévoit un repas sans porc, alors peut-être qu'il faut aussi prendre en compte les pratiques alimentaires des autres confessions. Donc première question, quid de l'égalité entre les religions? De façon plus large, se pose la question de l'égalité, moi je préfère comme ça, des options spirituelles. Est-ce qu'il y a des repas athées? Je ne sais pas si ça existe, des repas athées. Mais si on veut être vraiment partisan à fond de la liberté de conscience, c'est non pas l'égalité des religions qu'il faut invoquer, mais bien l'égalité des options spirituelles. Se pose également la question du coût, des repas. Une circulaire, par exemple, de 2004 prévoit qu'il peut être possible de prévoir une tarification spéciale pour les usagers afin de financer des surcoûts. Par exemple, si une commune prévoit des repas bio, il peut y avoir, en vertu de la circulaire de 2004, une tarification particulière pour payer ce surcoût. Ah, donc certains ont dit, mais pourquoi alors ne pas utiliser cette circulaire et prévoir un surcoût, une tarification particulière pour les repas cultuels? C'est-à-dire, il y a une demande de repas cultuels, la commune le fait, mais elle le fait payer plus cher. Alors, il y en a certains qui ont dit que ce serait une solution, puis d'autres qui ont dit non, absolument pas. Il ne faut surtout pas utiliser cette circulaire pour les repas cultuels parce que certains pourraient y voir une discrimination à l'égard d'une religion. Donc, ce n'est pas facile à résoudre comme question. Et donc, tous ces obstacles-là, toutes ces questions plutôt, sont autant d'obstacles à une différenciation systématique des repas dans les écoles. Alors, je rajouterai un autre élément peut-être pour aller dans le sens d'une absence de prise en compte systématique, je dis bien systématique, de toutes les demandes religieuses. Le service de la restauration scolaire, la cantine, c'est un service accessoire au service public de l'enseignement. Mais il a quand même une nature particulière, parce que la cantine, c'est dans les établissements publics, c'est à l'école que ça se passe, c'est pas en dehors de l'école. Et l'école, on le sait, c'est un lieu d'éducation. Les élèves doivent être protégés des manifestations d'appartenance religieuse. La loi de 2004, la loi du 15 mars 2004 qui a interdit le port de signes d'appartenance religieuse visait bien cet objectif-là, c'est-à-dire cette neutralité qu'on exige des élèves qui fait que quand on est à l'école, on est élève. On n'est pas catholique, protestant, voilà. Donc c'est vrai que si on s'appuie sur les objectifs de la loi de 2004, on pourrait dire la cantine c'est pareil, l'élève il est encore dans son école et peut-être qu'il faut aussi en appeler à la mission de l'école, à l'objectif de l'école et l'appliquer également à ce service qui, bien qu'accessoire à l'école, s'exerce dans les locaux. J'ai oublié qu'il y avait une autre revendication qui n'était pas religieuse. C'est les, comment on appelle ça, les végétariens. On a eu certaines communes qui ont eu aussi des démarches de végétariens pour qu'il n'y ait pas de viande, jamais de viande dans les menus. Alors je sais que le maire de Castanet, il y a un an ou deux ans, je ne sais pas, il en a eu assez parce qu'il avait des demandes religieuses. Puis après, quand les végétariens ont demandé, il a dit stop. C'est fini, parce qu'il ne pouvait pas, satisfaire toutes ces demandes. Quoi qu'il en soit pour ce service, ce sont les collectivités territoriales qui sont seules compétentes en la matière. C'est un problème qui n'est vraiment pas facile à régler. L'État ne veut pas intervenir et on peut s'appuyer sur le rapport du défenseur des droits d'il y a un mois à peu près. Il a fait un rapport sur les cantines et il se contente, moi je suis très critique à l'égard de ce rapport, parce qu'il se contente de dire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il explique les choses et puis il dit, mais voilà, il n'y a pas de problème. Alors leur méthode, ils ont fait une enquête, je crois qu'ils ont eu 1000 réponses, ce qui n'est rien. Donc c'est vrai qu'établir un rapport sur 1000 réponses, sociologiquement, je pense que la méthode, elle est pas bonne du tout. Ils ont dû avoir un retour de 40-50 réponses sur cette question-là particulière des demandes religieuses. Alors, ils en ont conclu qu'il n'y avait pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème parce que les collectivités ont pris en compte les demandes religieuses, bien sûr. Donc il va pas y avoir énormément de retours, puisque de toute façon, elles mettent en place des repas de substitution. Voilà. Donc ça, c'est un premier service public qui est très impacté par l'application de ce principe de laïcité. Alors, le second, c'est les cimetières. Alors, les cimetières, en principe, donc en droit, en principe, les cimetières, là aussi, ils relèvent de la responsabilité des communes. C'est un service, là, pour le coup, obligatoire. Les communes sont obligées, hein, à la différence des cantines, de créer un cimetière. En principe, les cimetières sont interconfessionnels, sauf en Alsace-Moselle. Mais de toute façon, tout ce que je vous dis, c'est sauf en Alsace-Moselle tout le temps. Hein, voilà. Non. Et en Alsace-Moselle, la commune de Strasbourg, en février 2012, donc c'est pas vieux, vient de créer un cimetière public musulman. Il y avait déjà 8 carrés musulmans qui existaient dans les cimetières publics, mais là, Strasbourg a créé carrément un cimetière public musulman. Mais bon, c'est pas le même droit qui s'applique dans ce territoire. Et donc la neutralité des cimetières a été affirmée dans deux lois du 19e siècle. Une première, 1881, c'est une loi qui abroge une ancienne disposition d'une vieille loi de l'an 12 qui imposait aux communes d'affecter une partie du cimetière à chaque culte et de créer un cimetière spécialement affecté à chaque culte existant dans la commune. Donc ça, c'était une disposition de l'an 12 qui a été abrogée en 1881. Ensuite, la loi municipale, c'est la grande loi de 1884, celle qui fonde le pouvoir des maires. Donc cette grande loi de 1884 impose aux maires une obligation de neutralité dans l'exercice de son pouvoir de police des funérailles et des cimetières. Et la loi de 1905, toujours, interdit à l'avenir, je cite, « d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions. » Donc on a vraiment des lois très importantes qui font qu'il ne doit pas y avoir dans les cimetières de séparation matérielle entre les cultes, enfin du moins entre les défunts appartenant à des cultes différents. Il ne doit pas y avoir de regroupement par confession dans les cimetières. C'est le principe de laïcité, de neutralité des cimetières. Les signes religieux sur les tombes, bien sûr, sont permis, mais dans son ensemble, un cimetière ne doit pas être consacré à un culte. Alors aujourd'hui, toutes ces dispositions, plus d'autres, sont inscrites dans le Code général des collectivités territoriales. C'est lui qui règle toutes ces questions-là, et notamment s'agissant des pouvoirs du maire. Le Code indique qu'il a un pouvoir de police sur le transport des personnes, les inhumations, les exhumations. Le maire est également responsable du maintien de l'ordre et de la décence, sans établir de distinction ou de prescription particulière en raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort. Donc même encore dans le Code général des collectivités territoriales, le principe de neutralité des cimetières est absolument rappelé. Donc créer un cimetière confessionnel, c'est illégal. Ceci étant, cette neutralité des cimetières doit encore une fois être concilié avec la liberté des funérailles. C'est une autre grande liberté, c'est très important, la liberté de croyance, enfin la liberté des funérailles et la liberté de croyance de ceux, enfin des titulaires de concessions funéraires. Donc là encore, on se retrouve avec un principe de neutralité, un principe de laïcité, et puis de l'autre côté, une liberté très importante qui a été affirmée en 1887 et qui permet à tout le monde de régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux, et de choisir son mode de sépulture. Donc ça s'appelle la liberté des funérailles. Alors, à chaque fois qu'il faut concilier, c'est très difficile en droit. Hein, souvent, il y a des principes qui ne sont pas supérieurs aux autres. Donc quand on doit appliquer des principes de même valeur, il ne faut pas en choisir un par rapport à un autre, il faut les concilier. Et donc le Code, à cet égard, pose le principe que les cérémonies sont exercées conformément aux coutumes et au culte dans la limite du respect de l'ordre public, de la santé, de l'hygiène et de la salubrité publique. Par exemple, l'inhumation d'une personne sans cercueil en pleine terre est interdite, même si cela correspond à un rite religieux particulier. Là, c'est l'ordre public, la salubrité, qui primera sur la liberté religieuse d'être enterré sans cercueil en pleine terre. Donc la famille peut faire des choix, c'est-à-dire qu'elle peut choisir l'aspect extérieur de la sépulture, elle peut choisir la position du défunt, enfin bon, il y a plein de choses. Mais il ne faut pas que ce soit choquant pour les autres familles et il ne faut pas qu'il y ait trouble à l'ordre public. Donc voilà cette conciliation qu'opère et que prévoit le Code général des collectivités territoriales. Donc a priori, le droit est clair. Mais le problème, là encore, c'est que dans ce domaine aussi, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de demandes pour des carrés confessionnels dans les cimetières public. Alors, ça peut s'expliquer, ça peut se comprendre. Il y a les jeunes générations ne désirent plus, comme les anciennes, être enterrées au pays, dans le pays d'origine. Elles ont le désir d'être enterrées dans la ville où elles habitent. En plus, c'est très coûteux de rapatrier un corps dans les pays d'origine. Donc, il y a ça. Ces jeunes générations qui veulent être enterrées en France, quoi, dans les cimetières publics, souhaiteraient, et on peut bien évidemment le comprendre, que soient respectés leurs rites, les rites religieux. Du côté des pouvoirs publics, il y a aussi un argument qui est souvent avancé, c'est la volonté, ou le souci, plutôt, d'intégration des familles issues de l'immigration. On peut là se référer alors à un rapport que moi j'aime pas trop, enfin, je suis pas d'accord avec toutes ces conclusions, mais le rapport Machelon de 2006, dans ce rapport, Machelon expliquait qu'il n'était peut-être pas nécessaire de proposer l'institution de carrés musulmans, mais c'est un rapport qui préconisait la mention dans les textes de la possibilité pour les maires de tenir compte des convictions religieuses pour la localisation des concessions. Donc on peut comprendre les raisons de ces demandes du côté de ces jeunes générations. On peut entendre l'argument de l'intégration des populations issues de l'immigration. C'est vrai qu'être enterré aussi avec tout le monde, c'est un facteur d'intégration. Donc voilà, le contexte, c'est celui-là. Comment on répond à cela? Encore une fois, par une circulaire, ce qui n'est pas très bien. Une circulaire, ce n'est pas un grand texte. Parfois, on aimerait qu'il y ait des lois qui nous disent, voilà, c'est comme ça qu'il faut appliquer les choses-là. Non, ce sont souvent des circulaires qui apportent des solutions ou alors des objectifs à atteindre. Donc là, c'est encore une circulaire du ministre de l'Intérieur de 2008 qui encourage les maires alors à aménager des espaces confessionnels dans les cimetières en fonction des demandes, dans le respect du principe de neutralité des parties communes et du principe de liberté de croyance individuelle. Alors ce n'est pas, comme pour les cantines, là encore, ce n'est pas une obligation pour les maires, mais là encore, ils sont encouragés à créer des carrés confessionnels dans les cimetières publics. Donc en droit, la création de carrés reste illégale, mais leur création est incitée via cette circulaire. Donc, vous voyez, en droit, c'est mouvant, voilà. C'est juridiquement illégal, mais le ministre de l'Intérieur incite quand même les maires à le faire. Donc, c'est une pratique qui est tolérée. Voilà, jusqu'à quand, je ne sais pas. Un exemple, alors, qui n'est pas un exemple religieux, mais qui est assez récent. En novembre 2011, le Conseil d'État a eu à se prononcer sur une question politique, là. Une stèle commémorative avait été érigée au cimetière de Marignane à la mémoire des partisans de l'Algérie française. Et le Conseil d'État a bien sûr jugé que c'était totalement... Alors, c'est pas religieux, mais c'est du même ordre. Il a considéré que c'était totalement incompatible avec la destination du cimetière et avec la neutralité du cimetière. De plus, il y avait bien sûr des risques de troubles à l'ordre public. Donc la question des cimetières, vous voyez, depuis, je vous cite des arrêts de 2011, hein, tout à l'heure, de 2012. Donc on est vraiment dans cette problématique actuellement. Un autre service public. Alors les piscines, ça sera beaucoup plus, vous en avez entendu parler, des horaires de les piscines. Donc quand c'est une piscine municipale, hein, donc quand c'est un service public sportif, donc un service public, oui. Là aussi, les collectivités sont confrontées à des demandes de réservation de créneaux horaires donc non mixtes, hein, pour les équipements, dans les équipements publics et notamment dans les piscines, pour motifs religieux. Alors là non plus, il n'y a pas de réglementation. Hein. Autant pour les cimetières, on a quelques lois. Mais là, comme pour les cantines, il n'y a pas de réglementation. Alors on peut essayer d'aller chercher quelques principes juridiques. On peut trouver un grand principe quand même qui est l'égalité homme-femme. C'est quand même un principe que l'on a dans le préambule de la Constitution, c'est pas rien. On peut également invoquer le principe d'égalité de tous devant le service public. C'est quelque chose, mon étudiante pourra vous l'expliquer, elle le connaît par cœur. L'égalité de tous devant le service public, où on est tous égaux dans l'accès, on est égaux dans le fonctionnement du service public, et on ne peut être traité différemment que si on est dans des situations différentes, objectifs, en lien avec l'objet du service public. Donc il y a un droit du service public, hein, qui prône l'égalité. Pendant les heures d'ouverture au public, je pense quand même que l'interdiction de fréquentation d'un équipement public pendant les heures d'ouverture au public à une catégorie particulière d'usagers, quelle que soit cette catégorie, que ce soit, bon là c'est les femmes, hein, qui sont visées, mais ça peut être pour d'autres motifs, c'est discriminatoire, c'est inconstitutionnel. On ne peut pas réserver, hein, un établissement public, où on ne peut pas interdire à une catégorie particulière d'usagers d'avoir accès à un service pendant les heures d'ouverture. Mais qu'en est-il en dehors des heures d'ouverture? C'est ça le problème. Qu'en est-il en dehors des heures d'ouverture de l'équipement au public? Alors, on le sait, il y a des créneaux spécifiques qui sont déjà prévus, qui sont déjà accordés à des associations sportives. Parfois, ces associations sportives ne sont pas mixtes. Pas pour des questions religieuses, mais il y a l'équipe de filles qui vient s'entraîner pour une compétition. Et puis, il y a des équipes de garçons, mais parce que c'est du sport. Hein, c'est pas parce que ce sont. Enfin voilà. Il y a des créneaux qui sont réservés aussi à des écoles publiques, à des écoles privées qui peuvent ne pas être mixtes aussi. Donc la question, elle se pose vraiment pour des créneaux accordés en dehors de l'ouverture au public. Alors c'est possible, on peut le faire, mais il y a des conditions. Les conditions sont classiques, il ne faut pas qu'il y ait une atteinte. Si on accordait ces créneaux particuliers en dehors des heures d'ouverture, il ne faut pas qu'il y ait atteinte au fonctionnement du service public. Par exemple, il y aurait atteinte si la fréquence des créneaux accordés restreignait de façon trop importante les heures classiques d'ouverture au public. Là, il y aurait une atteinte au fonctionnement du service public. Il y aurait une atteinte au fonctionnement si n'était pas respecté le principe d'égalité entre tous les organismes qui demandent que leur soient accordés des créneaux en dehors des heures d'ouverture. Donc on peut comme ça essayer de chercher des conditions. Mais ceci étant, une collectivité locale n'est absolument pas obligée, hein, d'accorder ce type de créneau pour que des femmes aillent nager seules à l'abri du regard des méchants hommes. Je vous plaisante, mais enfin bon, voilà, c'est pas une obligation, hein, du tout. Et elle peut toujours refuser donc cette demande de créneau particulier, mais il faut qu'elle le motive. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle explique, hein, que pour elle, il y a un risque de trouble à l'ordre public, qu'il y a une utilisation peut-être incorrecte de l'équipement, qu'il y a une atteinte aux principes fondamentaux de fonctionnement du service public. Mais vous voyez, il n'y a pas de réponse claire. Encore une fois, pour ce service public-là, les collectivités locales sont seules à décider. Et donc, forcément, on a des réponses différentes à une même question. C'est ça, hein, in fine, c'est ça le problème. Voilà, donc quelques services publics qui ont pu poser souci. Après, alors, le deuxième thème, c'est au niveau des subventions aux associations. Alors, les collectivités locales, elles entretiennent depuis toujours des relations très, très importantes avec les associations. Ce sont des les associations, ce sont des partenaires naturels des collectivités locales, et encore plus depuis la décentralisation, hein, enfin, le grand mouvement qui a commencé en 82. Alors, diverses associations là peuvent être bénéficiaires de subventions de la part des collectivités territoriales. Il faut faire la différence entre les associations cultuelles dont je vais parler, et puis les autres, hein, les associations qui ont d'autres activités et qui souvent peuvent avoir des activités culturelles, sportives ou autres, et cultuelles. Donc ça, je les appellerai les associations mixtes. Hein, mais il faut faire la différence entre les deux. Alors, s'agissant des associations cultuelles. Alors, une association cultuelle, c'est une association qui est consacrée à l'exercice d'un culte, d'une religion. L'association cultuelle, c'est la forme juridique privée qui a été créée en 1905 lorsque les cultes, n'étant plus reconnus, ont acquis un statut de droit privé. Dans la loi de 1905, vous le savez, dans l'article 2, il est indiqué l'État, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Alors ça, c'est très important. La non-reconnaissance, ça ne signifie pas l'ignorance. Beaucoup pensent ça, et notamment beaucoup, quand on fait des colloques nous, sur cette question-là, beaucoup d'étrangers pensent que la non-reconnaissance, ça veut dire l'ignorance. Ça ne veut pas dire ça du tout. La non-reconnaissance en droit, ça signifie juste que le fait religieux cesse d'être un fait public, il devient un fait privé. Ça ne veut pas dire qu'on l'ignore, ça veut dire qu'il devient un fait privé. C'est pour ça que la loi de 1905, elle s'appelle la loi de séparation entre le public et le privé. Donc à partir du moment où la République a dit « je ne reconnais pas les cultes », donc ils basculent dans la sphère privée, il y a deux conséquences. Ils deviennent tous égaux entre eux, ça c'est important, il n'y a pas un culte plus important qu'un autre, même si un sociologue vous dira cela. Le sociologue vous dira « la religion majoritaire, c'est la deuxième religion ». Mais ça c'est la sociologie, c'est pas du droit. En droit, il y a vraiment égalité des cultes. Et la deuxième conséquence, c'est que ces cultes, ces religions ont un statut de droit privé, sauf en Alsace-Moselle, voilà, où ils ont un statut, où ils sont reconnus, où ils ont un statut de droit public. Donc ils ont un statut de droit privé, et la forme juridique qu'ils prennent pour se former, pour exister, c'est l'association cultuelle. Pour les catholiques, c'est l'association diocésaine. Bon, c'est un truc, c'est particulier, le catholicisme. Bref, l'association cultuelle, donc, ça sert, c'est la religion. Voilà, c'est une association qui sert, qui est consacrée à l'exercice d'un culte. Et donc, en 1905, la plupart des édifices cultuels, donc des églises, hein, la plupart des édifices cultuels, ça c'est la première chose qu'il faut régler, a été intégré dans le domaine public. C'est-à-dire que les communes, notamment, sont devenues propriétaires des édifices du culte, des églises, donc il en résulte pour elles une obligation d'entretien, de conservation. Alors, à l'exception quand même des dépenses, je crois, de chauffage, d'électricité, lorsque cela est nécessaire pour les cérémonies, uniquement lorsque c'est nécessaire pour les cérémonies. En revanche, donc, la loi de 1905 prévoyait déjà que des fonds publics pouvaient servir aux travaux d'entretien, aux grosses réparations de ces édifices. Normal, elles en sont les propriétaires, donc elles l'entretiennent. Et la loi de 1905 prévoyait aussi que des subventions, que les communes pouvaient payer les frais de chauffage ou d'électricité, mais si cela servait à la conservation du bâtiment, si c'était nécessaire pour la conservation du bâtiment. La loi de 1905 prévoyait également aussi que les communes pouvaient subventionner des réalisations dont la vocation n'était pas exclusivement cultuelle. Par exemple, subventionner une horloge visible de l'extérieur de l'église. Pourquoi ? Parce que tous les habitants de la commune peuvent regarder l'horloge et voir l'heure à l'horloge. Voilà. Et donc, si les communes se sont retrouvées propriétaires de ces édifices cultuels, ce qui est très important, c'est que l'édifice cultuel est à la disposition exclusive du desservant, c'est-à-dire du ministre du culte. Hein. C'est lui qui en a les clés, c'est lui qui décide des horaires d'ouverture. Il ne peut y avoir dans l'église l'exercice du culte. Les réunions politiques sont interdites, les propos diffamatoires aussi. Donc il y a toute une réglementation, là, vraiment, pour ces édifices cultuels. Mais, alors, En ce qui concerne la création ou l'amélioration de ces édifices cultuels, le Conseil d'État, et c'est là où on a vraiment un grand changement hein, qui est en train de s'opérer, le Conseil d'État a remanié un petit peu les conditions de mise en œuvre de cette loi de 1905. On pourrait dire voilà, qu'on assiste à une évolution des édifices cultuels vers un objectif